Bon réveil à tous, il est 6h.
Nous recevons environ 4000 appels par jour. Mais nous ne connaissons pas le nombre d'appels qui n'ont pas abouti.
Des pannes à la chaîne depuis hier soir sur les numéros du SAMU, de la police ou encore des pompiers. Le réseau serait rétabli depuis minuit, annonce l'opérateur Orange à l'instant. Une réunion de crise est prévue ce matin au ministère de l'Intérieur. Dans ce journal, le bain de foule d'Emmanuel Macron dans le Lot, à moins d'un an de la présidentielle. L'affaire Mila devant la justice. Aujourd'hui, 13 personnes seront jugées pour cyberharcèlement. Et puis en Israël, un nouveau gouvernement formé in extremis met fin à l'ère Netanyahou.
À suivre la page des sports et mon invité inattendu. Un athlète inattendu ce matin, on va parler sport. Vous le connaissez pourtant comme chanteur, on l'a vu sur la scène de l'Eurovision il y a quelques années. Eh bien, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un adepte de ce qu'on appelle l'Ironman, le triathlon de l'extrême. Il va nous raconter ça dans un petit quart d'heure. Bon réveil à tous, bienvenue.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le 15, le 18, le 112, il était impossible de joindre les services d'appel dédiés aux urgences dans plusieurs départements français hier soir. La faute à un problème de maintenance de l'opérateur Orange. Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur.
Alors il y a eu un incident technique du réseau de téléphonie Orange qui a affecté la réception des appels d'urgence de manière partielle, mais quand même très significative sur la France entière. Et quand les gens appelaient le 15, le 17, le 18 pour contacter le SAMU, la police ou les pompiers, bien souvent l'appel n'aboutit pas. Donc c'est un problème majeur dû à un problème de maintenance, semble-t-il, de l'opérateur Orange. Cela peut avoir des conséquences dans la réception des appels des sapeurs-pompiers, de la police. Par exemple, pour la police, il y a une intervention déclenchée toutes les 10 secondes à la suite d'un appel 17. Si on tombe sur un répondeur ou s'il y a une sonnerie d'attente, il ne faut pas hésiter en cas d'urgence de persévérer, réitérer les appels jusqu'à obtenir le numéro du service de secours et être mis en relation avec l'opérateur téléphonique.
Alors Orange annonce ce matin que le réseau est rétabli depuis minuit, mais le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, Christophe Prudhomme, pointe un incident grave, car dans les situations les plus critiques, chaque seconde compte.
Nous recevons environ 4000 appels par jour, mais nous ne connaissons pas le nombre d'appels qui n'ont pas abouti. Donc on ne saura que quand les gens se manifesteront et expliqueront que, alors qu'ils avaient une détresse vitale chez eux, ils n'ont pas pu joindre le service de secours immédiatement. Ça entraîne des délais de prise d'appel et des délais d'intervention qui auraient pu être évitables s'il n'y avait pas eu ce dysfonctionnement. Dysfonctionnement qui était hautement prévisible, puisque ça fait des années que l'on dénonce le fait que nos réseaux téléphoniques sont sous-dimensionnés et non sécurisés.
Des propos recueillis par Diane Berger et Nicolas Feldman en déplacement en Tunisie, aux côtés de Jean Castex, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Cédric O, secrétaire d'État au numérique, ont dû abréger leur voyage pour rentrer à Paris. Une réunion de crise doit avoir lieu à Beauvau, tôt ce matin.
Emmanuel Macron, lui, continue sa visite dans le Lot pour valoriser le patrimoine touristique. En tout cas, c'est l'objet officiel.
Oui, car à moins d'un an de la fin de son quinquennat, cette première étape d'un tour de France du chef de l'État prend des airs de début de campagne électorale. Hier, c'est dans le village médiéval de Saint-Cyr-la-Popie qu'Emmanuel Macron est allé à la rencontre des Français. Benjamin Péter a suivi ses déambulations.
J'étais comme blanc toute la journée.
Sébastien a du mal à s'en remettre. C'est lui qui a accueilli le président et les acteurs du tourisme sur sa terrasse pour parler de la reprise avant une déambulation dans les rues de la cité médiévale. Dans une ambiance de bal populaire, Emmanuel Macron, tout sourire, parle des vaccins.
Je suis pharmacien dans un petit village juste à côté.
Ça marche bien, vous vaccinez?
Oui, très bien.
Vous avez du Moderna là maintenant?
J'ai du Moderna.
Et l'Astra, ça marche un peu encore?
Pas beaucoup.
C'est dur.
On évoque aussi la reprise économique.
Vous allez bien?
On peut faire une
oui, bien sûr. Vous êtes dans quel secteur?
L'électricité.
Ça rend parfum?
Oui, du travail.
Mais Marc, qui est pourtant venu de Figeac pour le voir, n'est pas sûr de voter pour lui.
Comme je ne l'avais jamais vu, ni ma fille, on est venu le voir. Il est un peu en campagne, c'est normal.
C'est bon, vous êtes prêt à voter pour lui en 2022, alors vous êtes pour qui?
Ça fait des années que je suis un peu déçu par la politique, donc ouais. Pour l'instant, bon, je ne suis pas fixé. Je vais voir le président de la République. Après, on peut être avoir un personnage très attachant et pas forcément avoir ses idées politiques.
Pourtant, Emmanuel Macron est en terrain conquis dans ce village où 80% ont voté pour lui au second tour en 2017. Pour Jean-Paul, il ne prend pas trop de risques en venant ici.
Mais déjà, Hollande était venu ici, il n'était pas en difficulté non plus. C'est le plus beau village de France, tout est beau, c'est Disneyland ici. On prend un petit ticket, on a la tour de manège et on roule ma poule.
À Saint-Cyr-la-Popie, Benjamin Péter, Europe 1.
Et le chef de l'État a également annoncé lors de son déplacement l'ouverture de la vaccination aux adolescents de plus de 12 ans à partir du 15 juin. Celle-ci se fera sur la base du volontariat avec l'accord des parents.
Elle avait créé un très large mouvement sur Internet avec ses vidéos dans lesquelles elle critiquait l'islam. La jeune Mila va faire face à ses bourreaux numériques tout à l'heure.
13 prévenus âgés de 18 à 30 ans d'origine et confession diverses jugés pour harcèlement en ligne. Certains sont poursuivis pour menaces de mort et menaces de viol. Un délit passible de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et Mila s'est constituée partie civile, son avocat Richard Malka.
C'est pas facile pour elle, mais elle tient à être là, elle tient à être confrontée à ces personnes qui lui ont volé sa vie. C'est des profils très différents, c'est plutôt de jeunes gens sans problème qui diffusent des messages tels que la Mila, elle continuera jusqu'à ce que quelqu'un la trouve et la crève, ou encore que quelqu'un lui broie le crâne par pitié. Dis-moi où t'habites, je vais te faire une Samuel Paty, enfin comme ça je pourrais continuer jusqu'à demain matin. Donc c'est un véritable processus de terreur numérique. C'est la seule jeune fille de France qui va rester confinée, qui n'est plus scolarisée, qui est protégée 24 heures sur 24, qui vit un enfer depuis 18 mois, alors que, je le rappelle, elle n'a fait qu'exercer un droit. Et qu'en tout état de cause, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on lui envoie pas des menaces de mort. C'est grave. Ce sera maintenant à la justice de rappeler ce qu'est le cadre légal et ce que sont nos valeurs républicaines aussi.
Richard Malka, avocat de Mila, joint pour Europe 1 par Marion Dubreuil. Un peu plus de 2 semaines avant les élections régionales et départementales, focus ce matin sur la Nouvelle-Aquitaine. Selon un sondage IFOP pour Europe 1 et la Tribune, la majorité régionale de gauche d'Alain Rousset arrive en tête au premier tour avec 24%, au coude à coude avec le Rassemblement national. 23%.
Europe 1.
6h07 sur Europe 1. Vous restez avec nous, la suite du journal dans quelques instants avec en Israël Benjamin Netanyahou qui va devoir passer la main. Ses adversaires ont finalement réussi à former un gouvernement. Vous allez voir, c'est une coalition très hétéroclite. A tout de suite.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Il est 6h09 sur Europe 1, la suite du journal, Sophie Echen.
15 ans au pouvoir, dont 12 consécutifs, Israël va tourner la page Benjamin Netanyahou. Hier soir, à la toute dernière minute, ses opposants ont annoncé avoir réussi à former un gouvernement. Une coalition hétéroclite qui inclut un parti arabe et des formations de gauche. Le récit depuis Jérusalem par notre correspondante Clotilde Mravko.
Le suspense aura duré jusqu'au bout. Moins d'une heure avant la date limite, le chef de l'opposition, Yair Lapid, a enfin annoncé qu'il avait réuni les soutiens nécessaires pour former un gouvernement sans Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre était au pouvoir depuis 2009 après avoir déjà occupé ce poste entre 1996 et 1999. Il est actuellement jugé pour corruption et devrait donc tirer sa révérence dans les prochains jours. C'est Naftali Bennett qui prendra sa succession, un dirigeant d'extrême droite représentant des colons israélien qui va devenir Premier ministre avec seulement 7 députés au Parlement à la faveur d'un accord de rotation. Il cédera le pouvoir en 2023 au dirigeant centriste Yair Lapid. Un parti arabe sera représenté au gouvernement, une première en Israël. Mais la coalition qui réunit la gauche et la droite dure est si hétéroclite que beaucoup craignent qu'elle ne s'effondre dans les prochains mois. Jérusalem, Clotilde Mravko, Europe 1.
Et puis la NASA va mettre le cap sur Vénus d'ici 2030 avec 2 nouvelles missions d'exploration de la planète la plus chaude du système solaire. L'objectif est de comprendre la différence entre son atmosphère infernale et celle de la Terre, sa voisine, devenue habitable.
Sophie Echen pour le journal. Il est 6h11. La page des sports à présent avec vous, Lénaïque Monnier. Et à la une, le retour de Karim Benzema hier soir en bleu. Retour gagnant ou pas?
Alors en tout cas, à 8 jours de l'Euro, l'attaque des Bleus a fonctionné si on en juge par le score. 3-0 face aux Gallois. Les buts sont signés Mbappé, Griezmann et Dembélé. Benzema lui a raté un pénalty, mais malgré tout, le joueur a commencé à reprendre ses marques.
Très bonne sensation, avec une bonne semaine de travail, de physique. Je me suis bien senti tout au long du match. Je suis monté en puissance, donc c'est de bon augure pour la suite.
Karim Benzema, à l'issue de la rencontre hier soir sur TF1, nouvelle chance de peaufiner cette attaque pour Didier Deschamps dès mardi prochain au Stade de France, cette fois-ci contre la Bulgarie.
Le foot toujours, mais retour à la Ligue 1, on devrait revenir à un championnat à 18 clubs.
Au lieu des 20 actuels, les clubs de l'élite sont finalement d'accord après avoir balayé d'un revers de la main cette possibilité pendant des mois. La crise sanitaire est passée par là, le fiasco Mediapro aussi. Il faut revoir la répartition des droits télé. Cette nouvelle formule doit donc être validée ce matin par l'Assemblée Générale de la Ligue de foot.
À Roland-Garros, ça y est, on ne compte plus les Français que sur les doigts d'une seule main.
Pas plus, pas moins. 5 rescapés après les éliminations hier de Caroline Garcia, Harmony Tan et Enzo Cuoco. Les espoirs chez les filles reposent aujourd'hui sur les épaules de Fiona Ferro qui veut aller crescendo.
Je pense que c'est plutôt un impact positif. Ça m'a donné beaucoup de confiance et l'envie de revivre des moments comme ça. Je ressens pas forcément plus de pression. Je pense que c'est plus un manque de repères aujourd'hui qui m'a fait avoir de telles variations au niveau de mon jeu. Mais je suis contente d'avoir l'opportunité de jouer un deuxième match pour faire mieux.
Fiona Ferro avec Marie Guida pour Europe 1. On va retrouver également Gaël Monfils cet après-midi. Et à partir de 21h, le duel Nadal-Gasquet, c'est un peu comme Friends. Hein. Ces deux-là ne se quittent plus depuis les petits as il y a pratiquement 20 ans. Nadal qui en plus fêtera ses 35 ans ce soir, mais sans public, puisqu'après 21h, plus public à Roland-Garros. Et
effectivement, couvre-feu à Roland-Garros, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Si vous avez la chance, si vous êtes partie des heureux élus qui ont... Et ticket pour aller à Roland-Garros, passer voir le studio d'Europe 1 dans les allées avec des émissions tout au long de l'après-midi en direct dans les allées de Roland-Garros. Merci à vous Lénaïc Monnier, il est 6h13.
Europe 1.
Et on va continuer de parler sport, c'est vraiment une journée pour les sportifs ce 3 juin parce que c'est à la fois la journée mondiale dédiée au vélo et à la course à pied. Eh bien ça tombe bien, mon invité inattendu du jour fait les deux et plutôt à un haut niveau. Vous allez voir, vous allez être surpris et impressionné. Bonjour.
Bonjour, c'est Amir.
Bonjour Amir, merci d'être sur Europe 1 ce matin. Athlète inattendu hein, pour le coup, parce que je disais vélo plus course à pied, vous rajoutez la natation, ça donne le triathlon et vous faites ce qu'on appelle l'Ironman, 7 heures d'effort, assez impressionnant. Hein. Vous allez nous raconter ça dans un instant. À tout de suite.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Le chanteur Amir est sur Europe 1 avec nous ce matin, l'invité inattendu de ce 5-7. Amir, adepte non seulement du marathon, mais du triathlon. Je le disais, vous avez participé à deux reprises à ce qu'on appelle des Ironman, ces courses de l'extrême. Vous êtes un super-héros en fait.
Oh, n'exagérons pas. Je vous avoue que c'est presque hein, aussi physique que de monter sur scène tous les soirs pendant des heures. Mais en vrai, de vrai, c'est né justement de ces tournées-là où... Franchement, on se faisait un peu chier dans les journées, en attendant le concert du soir. Donc, étant dans des villes de province, on se retrouvait à aller courir un peu avec les copains, les musiciens, mmh. à aller nager parfois dans la piscine municipale. Puis comme mon batteur est un fervent triathlète, de haut niveau d'ailleurs, et qu'on a tous envie d'avoir la même carrure que lui, on s'est dit, partons nous aussi là-dessus. J'ai été le premier à suivre, après le reste des musiciens l'ont fait quelques mois plus tard. Mais ça a commencé au Portugal, à Cascais, un premier semi-Ironman. Ouais. Ça veut donc dire 2 km de natation, suivi par 90 km de vélo, suivi par un semi-marathon, donc 21 km de course à pied. C'est assez lourd comme charge.
Mais c'est une épreuve qui dure combien de temps si on additionne tout ça?
Alors franchement, si c'est mon batteur, ça dure un peu moins de 5 heures. Si c'est moi, c'est un peu plus de 7 heures.
Ça fait une journée.
Mais c'est pas parce que je suis lent que c'est moins de souffrance. Au contraire, c'est vraiment une épreuve longue, quoi, pour des gens comme moi qui, d'ailleurs, ça a été propulsion depuis le canapé pour moi. Parce que j'étais pas du tout le mec qui faisait du sport et encore moins à un tel niveau. Donc j'ai voulu me prouver que j'en suis capable, surtout que lui m'a beaucoup encouragé. Et c'est devenu finalement un challenge personnel.
C'est un dépassement de soi à ce stade. Vous aviez besoin comme ça de repousser vos limites?
Je trouve ça intéressant, surtout dans le quotidien que l'on vit. Il y a quelque chose quand même d'assez étrange à recevoir de l'amour en masse, à chanter jusque tard, à vivre dans un tourbus, à picoler, à s'amuser, à blaguer. On a l'impression qu'il faut quand même se donner à un moment quand même, et de façon saine et aussi, investie. Et donc j'ai trouvé cet axe que Julien, donc mon batteur, m'a proposé, et Teddy, le coach, comme un axe parfait pour équilibrer un peu cette vie incroyable et euphorique. Et ça s'est avéré comme un merveilleux truc à faire parce que je trouve que ça a mis de l'ordre, ça a donné une bonne énergie tout du long, ça met le corps en forme. Puis c'est surtout se prouver que quand on croit en quelque chose et qu'on se donne les moyens et qu'on prend le temps de le faire, tout est possible. Parce que pour tout vous dire. Avant d'avoir commencé à les entraînements, ça me semblait impossible, réellement impossible.
Amir, triathlète ce matin sur Europe 1, ça implique une énorme préparation. Ça veut dire qu'au quotidien, vous courez beaucoup, plusieurs fois par semaine?
Alors, avec le Covid, vu que toutes les compétitions auxquelles j'étais inscrite se sont annulées ou reportées, c'est devenu un peu de course à pied pour le plaisir pour l'instant. Les piscines étant fermées, le vélo, il faisait froid jusqu'à il y a peu de temps. Mais oui, ça demande 4-5 entraînements par semaine. Moi, à mon niveau, qui ne cherche pas forcément la performance, mais juste arriver à la ligne d'arrivée, ça peut suffire. Pour des gens qui cherchent la performance, c'est vraiment se challenger, chronométrer toutes les sorties et essayer de faire mieux à chaque fois. Et ça aussi, c'est faisable. C'est juste que moi, ça me prend un peu la tête. Je suis pas assez compétiteur pour le faire, mais en gros, c'est déjà génial de pouvoir faire du sport pendant plusieurs heures, de porter un dossard, d'être en...
Vous allez le refaire, c'est quand la prochaine course?
Alors, vu toutes les annulations, elles se sont toutes transformées en avoir. Maintenant, plus qu'à choisir l'endroit et la date à laquelle je vais refaire.
Donc, il y en aura plusieurs encore à venir.
Oui.
Et une tournée qui arrive. Et une tournée qui arrive, en plus.
Absolument.
pour la rentrée.
C'est génial, c'est bien. Ouais. En parallèle de la tournée, rien de mieux de faire du sport.
Voilà, en tournée dans toute la France cet automne avec votre troisième album Ressources, qui est disque d'or, avec ce dernier single qu'on va écouter pour se quitter, Amir, en duo avec Indila, c'est Carousel. Et on comprend mieux ce matin toute l'énergie que vous avez quand vous montez sur scène. Vous entraînez toute l'année.
Ben, je vous remercie beaucoup.
Merci d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu ce matin. Amir, merci, bonne journée.
Merci Sébastien, bonne journée.
Il est 6h21 sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Et on va continuer en musique dans une toute autre ambiance de Staple Singers dans la partition de la Soul avec Amblin Roche dans quelques secondes. A tout de suite.
Europe 1.
6h24, c'est l'heure d'ouvrir la partition d'Amblin Roche avec une saga familiale américaine. Ce matin, Amblin, l'histoire de Staple Singers, le groupe de gospel le plus célèbre de l'ère moderne.
La famille Staples, Sébastien, est remarquable pour avoir su briser les frontières factices qui séparaient la musique noire et le répertoire pop dans les années 70, tout en gardant intactes ses racines blues et sa foi chrétienne.
Tout commence dans une plantation du delta du Mississippi.
Robert Staples, dit Pops, a 21 ans et suit le mouvement qui conduit de nombreuses familles pauvres du sud des États-Unis à se rendre dans le nord dans l'espoir d'un avenir meilleur. Il s'installe à Chicago et avec sa femme, ils élèvent leurs 4 enfants, ouvriers le jour. Lorsqu'ils rentrent à la maison, Pops, une guitare entre les mains, dispense des cours de chant, d'harmonie vocale et de blues à ses 3 filles, Clarota, Yvonne et Mavis, et à son fils Pervis. Les week-ends, leur voix résonne dans l'église du quartier.
Why am I treated so bad? Très rapidement, la famille Staples gagne en popularité au sein des églises voisines.
Et notamment grâce à la voix fantastique, grave et puissante de Mavis Staples, l'une des plus grandes chanteuses solo américaines hein, aujourd'hui, qui continue de sortir des albums. Leur premier succès en 1956, Sun Cloudy Day, est un coup de massue selon Bob Dylan. Totalement fasciné, la voix de Mavis est, je cite, « la chose la plus mystérieuse que j'ai jamais entendue ».
Et Bob Dylan n'est pas le seul fan des Staple Singers. Alors que le mouvement des droits civiques prend de l'ampleur dans les années 60, les chanteurs se lient d'amitié avec Martin Luther King.
Pops a toujours lutté contre la ségrégation. En tournée, il refuse par exemple de s'abaisser à manger à l'arrière des restaurants du Sud, préférant grignoter un sandwich dans la voiture. Les Staple Singers décident de suivre le pasteur, d'assurer des concerts pour collecter des fonds lors de ses meetings. Ils deviennent les chouchous de la communauté noire et des campus universitaires.
Ils ont pour ambition de ne pas s'enfermer dans un registre qui ne s'adresserait qu'à un seul point,
oui,
de la population.
Il est nécessaire de délivrer un message de fraternité plus universel. Après l'assassinat de Martin Luther King à Memphis, les Staple Singers enregistrent leurs chansons à quelques encablures du lieu du drame dans les studios de la Stax. Valeur sûre désormais de la maison de disques emblématique de la soul sudiste, ils signent leur plus grand succès avec l'album Be Altitude or Respect Yourself. I know the lace.
Smiling faces. You There, le groove puissant avec la voix de Mavis Staples.
The Staples Singers numéro 1 aux États-Unis le 3 juin 1972. L'un des membres, le fils Pervis Staples, est décédé le 6 mai dernier à l'âge de 85 ans.
La partition chaque matin, c'est avec vous, Ombline Roche. Merci à vous.
Merci.
À demain.
À demain.
La météo avec l'assurance habitation BNP Paribas. L'assurance habitation qui s'adapte à vos besoins. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Laurent Cabrol, il fait encore chaud hein, ce matin.
Oui, il fait bon, il fait même chaud. Hein. Paris, là, en centre de Paris, nous avons du 19 degrés, du 18 à Marseille, à Lille et Bordeaux. Nous avons du 16 à Cognac et Nancy, 15 degrés à Strasbourg, et puis 12 degrés à Rennes. Vous voyez que ce sont des températures agréables. Et puis, il y a un dicton, nos ancêtres disaient « Qui se porte bien au temps chaud de juin ne craindra rien de si tôt. » Voilà. Donc vous savez, supportez bien, ça veut dire que ça...
À part 2-3 éclairs quand même.
Oui. Alors les éclairs, oui, malheureusement, ils sont là, ils sont encore là. Et ça fait du bien aussi aux cultures lorsqu'ils sont pas très violents. Ça rafraîchit et surtout, ça fait un bon arrosage. Alors, pour l'instant, ces orages sont supportables. Nous en aurons et nous en avons déjà puisqu'il pleut, je vous dirai où tout à l'heure, Dax, Cognac, l'Île-Dieu, etc. Donc sur la façade atlantique, nous avons les premiers orages. La vallée de la Loire, la Normandie, la région parisienne, le Limousin et le Midi-Pyrénées resteront autant calmes ce matin et ensuite ça va se multiplier dans le ciel, de gros nuages comme hier. Et puis certains éclateront, d'autres n'éclateront pas. Le Nord, Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace et Bourgogne. Là, ce sont quelques petites ondées, de plus en plus fortes au fil des heures. Et puis, fera très beau sur la Franche-Comté, la région lyonnaise et le bassin méditerranéen. Voilà, des températures maximales entre 22 et 28 degrés.
Merci Laurent Cabrol. On vous retrouve tout à l'heure, juste avant 7h.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Mais à présent, un nouveau journal sur Europe 1. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
Votre journal, il est 6h30.
Karim Benzema a pris le ballon. Et bien c'est lui qui va tirer ce pénalty. C'est parti. Oh non, c'est l'arrêt. Il est parti du bon côté. Karim Benzema a raté ce pénalty.
Il a manqué d'un peu de chance, Karim Benzema, hier soir. Mais il avait envie et ça se voyait. Pour son retour en équipe de France, nous verrons comment les fans de la première heure de l'attaquant ont vécu ce match remporté face au Pays de Galles. Les tests sérologiques bientôt proposés dans les centres de vaccination. Il s'agira de vérifier si on a eu le Covid et si on a suffisamment d'anticorps pour se contenter d'une seule dose. Et puis un nouveau Titeuf, la BD sort aujourd'hui, Colonie de vacances au programme. Le jeune héros à la mèche blonde, toujours bien engagé dans son époque.
Assouplissement en vue en entreprise, moins de télétravail, plus de salariés de retour au bureau. La vie va reprendre dans l'open space. Mais à quelles conditions? On détaille le nouveau protocole sanitaire qui s'appliquera dès la semaine prochaine avec mon invité dans 10 minutes, la vice-présidente de l'Association nationale des DRH, Laurence Breton-Cueny, en direct avec nous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
3-0, cela rappelle des souvenirs aux supporters des Bleus et c'est bon pour la confiance à moins de 2 semaines de leur premier match à l'Euro de football. Quant à Karim Benzema, même s'il a raté un pénalty, son retour en équipe de France est plutôt réussi. Voyons comment ce match a été vécu chez lui à Bron, près de Lyon. Jean-Luc Boujon était hier avec l'entraîneur des jeunes du club de Terraillon, là où Karim Benzema a fait ses premiers pas avec un ballon quand il avait 8 ans.
Dans la famille Gauthier, on est fan absolu de Karim Benzema. La mère, le fils et le père Christophe, entraîneur des jeunes du Sporting Club de Bron-Terraillon, le tout premier club de Karim. D'où l'émotion quand l'avant-centre apparaît maillot bleu sur le dos.
C'est trop bien, ça fait 5 ans qu'on attend ça.
27e minute, pénalty pour la France.
Eh oui, Benzou, c'est pour toi.
Mais c'est raté, moment difficile pour Christophe.
J'y crois pas. Non, il a pas loupé. C'est le gardien qui l'a arrêté. Moi, je vais mettre ça sur le fait du retour, de la pression.
Les minutes passent, Delphine aimerait tant que son protégé Marc pour son retour.
C'est Marc qui fait tout pour et il ne donne même pas le ballon, ça m'énerve.
La deuxième mi-temps est bien meilleure, l'avant-centre des Bleus joue bien, se crée des occasions et finalement...
Oui. Oui.
Sa frappe sur le poteau est à l'origine du troisième but des Bleus.
Mais regarde, c'est comme si c'est lui qui avait marqué en fait. Il a un apport offensif, c'est énorme.
Le match se termine sur le score de 3-0. Benzema n'a pas marqué, mais pour Christophe, le bilan est très bon.
Franchement, il a sa place. La preuve, Didier, il n'a pas sorti du match.
Et pour Delphine, ce n'est que partie remise.
Match d'ouverture, c'est lui qui va marquer.
Contre l'Allemagne ?
J'en suis sûr, ouais.
Rendez-vous est donc pris pour le 15 juin prochain. Bron, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Le 15 juin prochain, premier match de l'équipe de France dans cette Euro, ce sera face à l'Allemagne. Il est 6h33, quand on a déjà eu le Covid, une seule dose de vaccin suffit. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé hier l'arrivée en centre de vaccination de tests sérologiques rapides.
Oui, il s'agit de contrôler la présence d'anticorps dans le sang. La Haute Autorité de Santé doit d'ailleurs rendre un avis sur cette question aujourd'hui, Anne Le Gall.
Oui, car on estime que 10 à 30% des Français ont déjà eu le Covid, mais tous ne le savent pas. Certains ont eu très peu de symptômes et d'autres, explique le professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Henri Mondor de Créteil. D'autres sont tombés malades lors de la première vague, à un moment où les tests PCR étaient encore réservés aux soignants.
Il y a plein de gens qui ont été infectés au mois de mars, avril 2020, qui n'ont pas pu être dépistés du fait d'une difficulté d'accès au test de dépistage Covid. Et donc, l'idée de faire une sérologie serait de savoir si vous avez été infecté par la Covid-19. On a vraiment envie d'utiliser au mieux toutes les doses et puis aussi à l'échelon individuel, si vous n'avez pas besoin de deux doses, pourquoi en faire deux ?
Alors, pour éviter une injection superflue aux anciens malades du Covid, le ministère de la Santé a donc annoncé hier la mise à disposition de tests sérologiques rapides en centre de vaccination. Ils permettront de détecter en 20 minutes des anticorps à partir d'une simple goutte de sang. Mais ces tests pourraient-ils être proposés à tout le monde ou seulement à ceux qui ont un doute ? C'est un point sur lequel la Haute Autorité de Santé devrait trancher ce matin.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Le dispositif policier était renforcé cette nuit dans le port de Calais. Décision prise après de violents affrontements mardi soir entre plusieurs centaines de migrants et les policiers. 7 d'entre eux ont d'ailleurs été hospitalisés.
Lionel Gougelot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Des CRS qui ont subi des attaques très organisées visant en fait à investir le port.
Oui, effectivement, au plus fort des affrontements, les CRS ont dû faire face à près de 300 migrants armés de barres de fer ou de bâtons, des assaillants bien décidés à en découdre que les forces de l'ordre ont dû disperser par des tirs de LBD ou de grenades lacrymogènes. Face à face d'une telle violence, les policiers sur place n'avaient pas vu cela depuis le démantèlement de la jungle de Calais en 2016. Manuel Van Ontegem représente le syndicat Alliance des CRS.
Les auteurs de ces méfaits voulaient clairement violenter nos collègues, voulaient les blesser gravement, voire même les tuer, parce que quand vous êtes armés de barres de fer pour venir en découdre, quand vous jetez des pavés ou quand vous jetez des boîtes de conserve pleines ou des fois même ouvertes, mais avec bien sûr la face tranchante bien apparente sur la tête de quelqu'un, forcément on peut craindre le pire.
Parallèlement, ces CRS ont dû repousser une tentative d'intrusion dans le port d'une trentaine de migrants armés de haches et de clubs de golf. Il faut savoir que de plus en plus de réfugiés candidats à la traversée vers la Grande-Bretagne se concentrent actuellement dans la région de Calais. Ils tentent de profiter des conditions météo favorables pour franchir la Manche. Et il se peut aussi que les tentatives empêchées par les policiers ou les gendarmes du littoral exacerbent les tensions entretenues par les passeurs, d'où le regain de violence de ces derniers jours.
Merci Lionel Gougelot. Toute une soirée de galères et d'inquiétudes. Les numéros d'appel d'urgence, le 15, le 17, le 18, ne fonctionnaient plus hier soir pendant plusieurs heures en raison d'une panne chez Orange. Il a fallu utiliser des numéros à 10 chiffres. L'opérateur indique que la situation est rétablie depuis minuit.
On va terminer ce journal en librairie. C'est aujourd'hui que sort le 17e tome des aventures de Titeuf.
Oui, son titre, La Grande Aventure, et pour cause, Titeuf part en colonie de vacances à la campagne. Mathieu Charrier.
Titeuf rêvait de partir en camp jeux vidéo. Problème, selon ses parents, ce camp est déjà complet. Il découvrira plus tard que c'était une excuse. Mais le voilà donc en route pour le camp des ours, ce qui va lui valoir quelques angoisses, notamment la nuit dans la toile de tente. Alors Titeuf y fait ses besoins dans des toilettes écolo, regarde Shirley, l'une des monitrices, manger des sauterelles vivante, c'est bon pour la planète, explique-t-elle, tout en fantasmant, comme à son habitude, sur Louane, une autre monitrice. Titeuf, et c'est la force d'ailleurs de cet album, qui raconte aussi son époque et parle d'égalité homme-femme, d'homosexualité et même de pédophilie. « Notre corps nous appartient », clame le héros à la mèche. Vous découvrirez dans quelles circonstances. Notez enfin que cette BD est constituée d'une unique intrigue, et non pas de mini-histoires, d'une ou deux pages, comme c'est d'habitude le cas. Et puis la grande aventure paraît en juin donc, et non pas à la rentrée des classes comme habituellement, pour que les jeunes lecteurs puissent passer leur été en colo et en compagnie de Titeuf.
Mathieu Charrier.
Et sachez que Zep, l'auteur de Titeuf, sera tout à l'heure l'invité d'Europe Matin, l'invité du tête-à-tête avec Mathieu Béliard. C'est à 7h40. C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1, 6h38.
Europe 1.
C'est la prochaine étape du déconfinement, le 9 juin, mercredi prochain, et ce sera l'un des grands changements. Le télétravail à 100% ne sera plus la règle. Bonjour Laurence Breton-Cueny.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la vice-présidente de l'Association nationale des DRH. Le retour des salariés au bureau, ça implique forcément de nouveaux protocoles sanitaires. On va détailler tout cela avec vous dans quelques secondes. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
À 7h20, l'invité du 5-7 est la vice-présidente de l'Association nationale des DRH, Laurence Breton-Cueny. Mercredi prochain, 9 juin, est-ce que c'est la fin du télétravail imposé ?
Merci en tout cas de nous recevoir. Alors non, c'est pas vraiment la fin dans le sens où on doit l'organiser, si vous voulez, et nous on va plutôt parler des retours sur site. C'est effectivement la possibilité, après un dialogue social de proximité, de faire revenir les personnes, de leur imposer un jour, deux jours, voire trois jours par semaine, en fonction de la nécessité de l'activité.
De leur imposer, vous dites, deux ou trois jours en présentiel ?
Voire un jour. Oui, tout à fait.
Donc c'est un retour qui sera obligatoire ?
C'est un retour qui sera obligatoire, mais surtout il ne faut pas oublier d'ailleurs la chance que nous avons, c'est que le protocole sanitaire est sorti hier soir, soit une semaine avant, et en fait on a déjà mention d'un certain nombre de points pour l'organisation. Ainsi, la plupart d'entre nous, on a déjà commencé à se concerter avec les représentants du personnel et les représentants syndicaux, justement pour envisager ce retour tout en douceur, parce que bien entendu on n'a pas tous la même situation.
Alors un retour tout en douceur, il y avait des employeurs qui vont pouvoir faire en quelque sorte du sur-mesure, mais qui devront quand même fixer un nombre minimal de jours de travail à distance après discussion avec les syndicats. Quelle est la tendance dans les entreprises ? C'est d'arriver finalement à limiter au maximum ces jours de télétravail ?
Alors en fait, nous on veut pas, on veut tous un retour progressif, c'est-à-dire que vous parlez de jours télétravail, nous on parle plutôt de jours en présentiel, c'est-à-dire on sait très bien que les choses ont changé, on va pas revenir comme avant, il faut bien effectivement le savoir. Mais pour les personnes qui ne sont pas revenues sur les sites, puisque je rappelle, c'est optionnel jusqu'au 9 juin, eh bien ça va commencer progressivement, un jour, voire deux jours. Il faut effectivement rétablir la confiance et que chacun se sente bien pour revenir sur son site.
On sent, quand on vous écoute, que c'est important de parler de retour sur site. La formulation que j'utilisais, c'était celle du protocole sanitaire, nombre minimal de jours de travail à distance. Vous préférez prendre la phrase dans l'autre sens, c'est important de revenir en entreprise pour les chefs d'entreprise.
Oui. Alors, c'est important, pas seulement pour l'activité économique, mais également pour les salariés. On a un certain nombre d'études, dont la DARES la semaine dernière, qui montrent la situation psychologique, avec les risques psychologiques aussi, de cette distance qui s'est installée. Et en plus, on n'est pas tous dans la même situation. Certains d'entre nous ont les sites ouverts depuis la fin du premier confinement, alors que d'autres ont encore des sites fermés. Donc vous imaginez cette distance qui s'est installée au travers du temps. Donc là, cette reprise progressive, et on veut que ce soit un succès, je rappelle qu'on garde toutes les mesures de sécurité pour l'accueil de l'ensemble des salariés, doit se faire effectivement dans un bon esprit. Notre objectif, c'est que les personnes reviennent et qu'il n'y ait pas d'absentéisme. Mais on sait très bien que certains ont une appréhension. Mais ce que l'on note, c'est que tous ceux qui sont revenus au fur et à mesure du temps, parce qu'il y avait cette possibilité, je parle pour les métiers qui sont télétravaillables, pas pour ceux qui travaillent en présentiel depuis tout le temps. C'est-à-dire que eux savent que le premier jour, en fait, ils redécouvrent leur environnement de travail, ils redécouvrent leurs collègues et ça leur donne envie de continuer. Donc ça, c'est vraiment un point très positif.
C'est un besoin qui s'est aussi exprimé ces derniers mois chez beaucoup de salariés de pouvoir revenir. Comment vont se passer les discussions, puisqu'il doit y avoir discussion ? Il faudra qu'il y ait un accord sur le processus dans chaque entreprise ?
Non, il n'y a pas besoin d'accord. Le dialogue social, c'est vraiment des échanges. Je rappelle que nous avons tous réussi à tenir de façon économique dans nos entreprises grâce à un excellent dialogue social et nous sommes toujours en contact les uns des autres, encore plus nous comme DRH. Donc voilà, on en parle depuis un moment. Tout ce qui s'est fait, je rappelle qu'il y a un an, quand il y a eu le retour après le premier confinement, on avait déjà effectivement, au travers d'un dialogue social, organisé le retour sur site. Donc rien ne change. On continue à dialoguer et donc ça s'est fait tout naturellement pour les DRH comme moi, où tout est déjà prévu. Eh bien, nous avons dialogué, nous sommes concertés sur une reprise progressive et donc nous avons vu nos délégués syndicaux et bien entendu informé notre comité social économique. C'est important d'être aligné parce que c'est la confiance qui fera la réussite de la reprise sur site.
Ce retour au bureau, Laurence Breton-Cueny, va se dérouler dans un contexte où le nombre de burn-out explose. C'est ce qu'indique le baromètre de la santé psychologique des Français qui a été publié il y a quelques jours. Ce taux de burn-out a doublé en un an. Est-ce que vous êtes inquiète de l'état psychologique dans lequel les salariés vont revenir au bureau dans les prochaines semaines ?
Alors, effectivement, mais le burn-out n'est pas seulement d'origine professionnelle, il peut être également d'origine personnelle. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'attentes de revoir l'ensemble des salariés physiquement. Parce que effectivement aujourd'hui avec le distanciel, avec les réunions à distance, on voit pas les personnes et on ne sait pas comment elles vont. Alors vous parlez de burn-out, moi je parlerai également de troubles musculaires squelettiques, les TMS, parce qu'aujourd'hui c'est un mode de télétravail dégradé, vous avez des personnes qui ne travaillent pas sur des chaises ergonomiques, qui travaillent dans des canapés, sur voilà, dans des conditions de travail qui ne sont pas optimales. Et donc on va avoir effectivement des personnes qui ont des troubles de santé mentale puisqu'on sait que ça s'est accru au travers des différents confinements, et puis aussi des personnes qui ont adopté de mauvaises postures et qui vont avoir d'autres troubles. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup d'attentes et on est très en joie et très heureux, ça je crois qu'il faut le souligner, de pouvoir retrouver tout le monde. Et c'est ainsi que nous faisons nos messages à l'attention de l'ensemble des salariés. Et c'est sincère en plus.
Voilà, le 9 juin, cette nouvelle étape avec donc progressivement un retour au bureau qui va se faire, retour aussi dans les restaurants d'entreprise, dans les cantines avec une jauge à 50%, mais on pourra déjeuner à nouveau avec ses collègues. En table de 6 maximum. C'est une autre des évolutions de ce protocole sanitaire qui a été précisé hier soir. Merci à vous Laurence Breton-Cueny d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'Association nationale des DRH. Bonne journée à vous.
Au revoir.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Bonjour Anissa Mida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour va parler à tout le monde, enfin à tous ceux qui ont des soucis avec la batterie de leur téléphone portable qui se décharge trop vite et qui se retrouvent à court. Il s'agit d'un système capable de recharger son mobile à 100%, hein, en seulement 8 minutes.
Oui, de la charge ultra, ultra rapide. Et si on est vraiment pressé, hein, en 3 minutes, le temps de se brosser les dents le matin, et on obtient déjà 50% de charge, ce qui est plutôt pratique quand on a oublié de recharger son téléphone pendant la nuit. En ce moment, on assiste à une véritable course à l'échalote pour savoir qui aura le chargeur le plus rapide. Pendant longtemps, c'était le chinois Oppo, avec un record en 13 minutes. Eh bien, il vient d'être battu par Xiaomi, qui descend à 8 minutes. Et on le remarque d'ailleurs sur les plaquettes publicitaires, hein, avec tous les fast charge, super charge, rapide charge. Les fabricants communiquent de moins en moins sur l'autonomie des téléphones et de plus en plus sur la vitesse de charge des batteries.
Ouais, pourquoi ? Parce que l'autonomie, ça reste un problème ?
Bah, c'est exactement ça. Hein. En fait, il y a très peu de progrès en matière de batterie. L'autonomie stagne depuis des années. Pire, elle est même en train de chuter avec les mobiles 5G. Du coup, bah, ils se disent, quitte à recharger souvent, bah, autant que ça se fasse très vite. Le problème, c'est que pour profiter de cette fameuse charge rapide, il faut utiliser un câble et un chargeur spécial, ce qu'on a rarement avec soi, quand il y aura vraiment urgence.
Ouais. Il n'y a pas de risque pour la batterie ?
Bah si, c'est l'autre problème, hein, parce que plus on charge vite, plus la batterie chauffe et plus elle se dégrade rapidement, donc on finit par perdre de l'autonomie. Sans parler des problèmes de sécurité, puisque la batterie peut devenir instable et provoquer des courts-circuits. Vous vous souvenez peut-être des déboires de Samsung avec ses batteries explosives. Donc méfiance, la recharge ultra rapide, c'est un peu le cache-sexe d'une trop faible autonomie.
Voilà. Bon, bah donc on n'est pas prêt d'en avoir fini avec nos problèmes de batterie sur les téléphones. Anissa Mbida pour l'innovation. Merci, à demain. Il est 6h51 et nous ouvrons notre revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 partout dans le monde. Nous commençons en Allemagne ce matin. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez lu ce matin dans la presse à Berlin ?
À la une affaire d'arnaque aux tests antigéniques. Le Ruhr-24 cite un exemple à Cologne la semaine dernière. Un centre de dépistage a fait 70 tests en une journée, mais il en a déclaré près de 1000, avec à chaque fois 18 euros payés automatiquement par l'État. Et il y a des exemples partout en Allemagne, car ici, après une formation de 2 heures, n'importe qui peut ouvrir son stand de tests antigéniques. Le BZ dresse la liste dans un quartier de Berlin, une auto-école, un sex-shop, des bars, une agence de voyage, autant de lieux pris d'assaut car ici il faut présenter des tests pour aller boire un verre en terrasse. L'État a complètement perdu le contrôle, note le Rheinische Post, et on paye des millions pour des tests bidons. Envoyer la police, demande le Bild, message reçu. En 2 jours, la brigade de répression des fraudes a déjà fait fermer une 30aine d'établissements.
Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1 direction l'Égypte. Bonjour Ariane Lavrieux.
Bonjour.
De quoi on parle dans les médias au Caire ?
Bien, on voit des colonnes de camions chargées d'aide humanitaire en direction de Gaza. Une vidéo du site d'Al-Shorouk montre 52 véhicules recouverts de l'inscription « Vive l'Égypte ». C'est le slogan du président égyptien et de sa fondation OPAC qui aurait financé ce don de 500 tonnes de nourriture et vêtements. Le journal El Watan se réjouit quant à lui de voir des grandes photos du chef de l'État égyptien s'étaler dans les rues de l'enclave palestinienne. Sur le site Kierou 24, créé par les services de sécurité, on lit que le responsable du Croissant Rouge félicite les autorités d'avoir ouvert la frontière à des blessés palestiniens pour qu'ils soient soignés ici, sans préciser que tout le reste de l'année, l'Égypte impose un énorme blocus à la population palestinienne. Derrière cette soudaine solidarité, il y a aussi le marché de la reconstruction. Al-Masri Al-Youm révèle que le gouvernement projette de construire une ville de 10 000 logements qui s'appellera en toute modestie Al-Sisi, comme le maréchal président égyptien.
Eh bien, Ariane Lavrieux, correspondante au Caire en Égypte pour Europe 1. Nous terminons notre tour du monde ce matin en Chine avec vous Sébastien Lebelzik. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait les gros titres chez vous à Pékin ?
Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, la folle épopée d'un troupeau de 15 éléphants sauvages dans le sud du pays, déjà 500 km parcourus, et les médias suivent au jour le jour cette affaire depuis 2 mois déjà, quand ces éléphants se sont enfuis de leur réserve pour remonter vers le nord. Le journal Pengpai Sinwen nous détaille les dégâts, l'équivalent de 800 000 euros de culture détruite et le risque, comme l'explique China Daily, de voir le troupeau foncer sur la ville de Kunming, 6 millions d'habitants. Ils ne sont plus qu'à 3 km de la ville. L'agence chinoise nous montre les camions déployés pour tenter de les bloquer. Le site Sina Yunnan a interrogé plusieurs experts, mais personne ne comprend vraiment pourquoi ils se sont enfuis comme cela. L'une des hypothèses serait que le chef du groupe se serait perdu, entraînant avec lui tout le troupeau. C'est la première fois en tout cas qu'une chose pareille arrive en Chine, où il ne reste que 300 éléphants sauvages.
Merci à vous Sébastien Lebelzik depuis Pékin pour Europe 1. Europe 1. Il est 7h05, l'actualité qui nous occupe ce matin, c'est cette panne géante des numéros d'appel d'urgence, le 15, le 17, le 18, très perturbé par un dysfonctionnement chez Orange. La situation est rétablie depuis minuit, annonce l'opérateur. Les dernières informations dans le journal de 7h, le 7-9 de Mathieu Béliard démarre dans quelques secondes. À tout de suite.